Laudetur Jesus Christus.
Un début constructif salué par la partie ukrainienne. La réunion avec les négociateurs américains est toujours en cours sur les bords de la mer Rouge en Arabie Saoudite. Une proposition de trêve aérienne et maritime est étudiée. Nous verrons comment elle peut être reçue par la Russie dont la capitale vient d'être frappée par des dizaines de drones ukrainiens. Après les violences contre les Alaouites en Syrie, le pouvoir déterminé à poursuivre ses auteurs. Une commission d'enquête a été mandatée, ce qui n'empêche pas les habitants de la capitale Damas de craindre des résurgences. Reportage auprès d'eux. L'ancien dirigeant philippin accusé de crimes contre l'humanité sera jugé à La Haye, recherché depuis près de 10 ans. Rodrigo Duterte a été arrêté ce matin à l'aéroport de Manille par Interpol. L'audiovisuel public bloqué en Serbie, envahi par les étudiants et manifestants. Hier soir, ils protestent toujours contre le régime Vucic depuis novembre et l'effondrement d'une gare. Le pouvoir fragilisé aussi entre répression et négociation.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, 26e nuit du pape à l'hôpital, elle s'est déroulée paisiblement. François s'est réveillé aux alentours de 8h du matin et poursuit ses thérapies pharmacologiques, respiratoires et motrices. Informe ce matin le Saint-Siège. Le pape va mieux, son humeur est bonne. Une stabilité confirmée hier par le bulletin médical annonçant la levée du pronostic réservé. L'évêque de Rome a suivi en vidéo ce matin la 4e méditation des exercices spirituels curiaux pour le carême. Il a prié dans la chapelle adjacente à sa chambre. Le souverain pontife n'est donc plus considéré en danger imminent, mais la prudence reste de mise et les prières nécessaires. Pas de bulletin attendu ce soir, mais la communion de prière toujours avec la récitation du chapelet conduite à 18h en salle Paul VI, ce soir par le cardinal suisse Kurt Koch, préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ce sera à suivre en direct sur vaticannews.va. L'actualité internationale ce mardi, dominée par les négociations américano-ukrainiennes en Arabie Saoudite, sur la table des diplomates au bord de la mer Rouge, cette proposition par l'Ukraine d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie. L'un des négociateurs ukrainiens salue d'ailleurs à la mi-journée des débuts de discussions constructifs qui pourraient être percutés ensuite côté russe, la capitale venant d'être la cible cette nuit de la plus grande attaque de drones ukrainiens. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Et ce matin, le Kremlin a dénoncé une attaque des forces ukrainiennes contre des civils. La défense russe a affirmé avoir abattu pas moins de 337 drones, dont 91 à Moscou et dans sa région. Les journaux télévisés du matin ont diffusé des images d'immeubles dont les vitres des derniers étages avaient explosé, sans qu'on sache s'ils avaient été directement touchés par des drones ou par des débris résultant de leur neutralisation. Ce n'est pas la première fois que la capitale russe est visée, mais l'attaque de ce matin revêt un caractère particulier dans la mesure où Ukrainiens et Américains entament des négociations de paix en Arabie Saoudite, une façon pour Kiev de démontrer que son armée conserve une capacité de nuisance. Mais les répercussions de cette attaque pourraient surtout braquer Moscou. Interrogé hier sur ce que le Kremlin attendait de ces négociations à Riyad, son porte-parole Dmitri Peskov avait précisé que, comme Washington, Moscou attendait une démonstration de la volonté des Ukrainiens de faire la paix. Pas sûr que l'attaque de ce matin soit interprétée comme un signal positif par les autorités russes. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Intense journée de défense et sécurité en Europe liée à l'Ukraine. Toujours le ton des illusions est révolu. Tonne Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg ce matin. La présidente de la Commission exhorte à des augmentations significatives et rapides des dépenses d'armement. En syntonie avec le président français qui, de son côté, réunit à Paris cet après-midi les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN au sujet de la guerre en Ukraine. Autre théâtre de conflit, le Soudan du Sud connaît d'inquiétantes tensions ces derniers jours, particulièrement dans l'état du Haut-Nil, à tel point que l'Ouganda y déploie des forces spéciales. Ces militaires seront à Djouba, la capitale du plus jeune état du monde. Depuis 2013, toutefois, l'Ouganda est régulièrement accusé d'ingérence au Soudan du Sud. En fin de semaine dernière, le Conseil des Églises du pays demandait au président Salva Kiir de s'attaquer d'urgence à cette montée des hostilités. En Syrie, la commission d'enquête sur les récentes violences se dit déterminée à empêcher les des représailles extrajudiciaires. La Russie, elle, affirme être en contact avec d'autres pays sans les nommer au sujet de ces massacres ayant tué plus de 1000 civils depuis jeudi. Le climat demeure tendu dans tout le pays malgré la fin de l'opération militaire contre les loyalistes à Bachar al-Assad, particulièrement à Damas où les habitants redoutent une détérioration de la situation sécuritaire dans leur quartier, à l'image de ce qui s'est produit ces derniers jours sur le littoral. À Damas, Mohamed Erani.
De nombreux Damasènes estiment que la survenue d'affrontements armés et de tentatives d'attentats signifie que les partisans de l'ancien régime se sont transformés en sorte de cellules dormantes disséminées à travers les différentes villes syriennes.
La situation sécuritaire est inconfortable, nous avons très peur. Par exemple, moi, une femme dans la quarantaine, j'ai peur de sortir de chez moi après 17h.
Nous demandons au gouvernement actuel d'intensifier les campagnes de sécurité dans les zones en dehors de Damas, car la ville est plus sûre que les campagnes et les autres régions.
Ces inquiétudes ont poussé les Syriens à exiger de la nouvelle administration qu'elle accélère la réorganisation du dispositif sécuritaire dans la capitale, qu'elle mette fin à la présence désordonnée des combattants armés dans les rues, les marchés et les quartiers, et qu'elle rétablisse la stabilité dans le pays.
Nous devons maintenant penser selon la logique de l'État. Il est donc préférable pour nous, en tant que citoyens, de traiter avec quelque chose d'organisé comme le ministère de la Défense, plutôt que de traiter sur le plan sécuritaire avec les chefs des groupes armés. C'est pourquoi nous constatons un certain dérapage sécuritaire.
Au cours des derniers jours, le ministère syrien de l'Intérieur a renforcé la présence de ses forces dans les différentes zones de la capitale et mène des opérations de fouilles régulières à la recherche d'armes et d'explosifs. Mohamed Erami, Damas, Radio Vatican.
Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte arrêté ce matin à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'ancien homme fort de l'archipel qui fut président de 2016 à 2022 est accusé de crimes contre l'humanité, en particulier pour sa guerre sans merci contre le narcotrafic. Avec cette arrestation, Olivier Bonnel, c'est une page sombre de l'histoire récente des Philippines qui refait surface.
Oui, Delphine, Rodrigo Duterte qui reste l'une des figures les plus controversées des Philippines. C'est sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, qui va d'abord construire sa carrière politique en étant maire de la ville de Davao pendant 22 ans. Davao, dans les années 80, était surnommé le petit Nicaragua philippin en raison de ses guérilleros communistes, de ses trafiquants de drogue et de sa criminalité. Duterte va y mener une politique de féroce répression, de véritables escadrons de la mort formés d'anciens militaires ou rebelles assassinent les criminels. On dit souvent que Davao fut un peu le laboratoire de la politique de Duterte quand il accède à la présidence du pays. En seulement 2 ans, dès 2016, il lance une véritable guerre contre la drogue, caractérisée par de nombreuses exécutions extrajudiciaires. Les chiffres varient entre 12 et 30 000 morts selon les procureurs de la Cour pénale internationale, souvent des personnes très pauvres. L'ancien président Delphine n'a pas hésité à signer plusieurs lois antiterroristes dans sa guerre au narcotrafic, suscitant les critiques de l'Église catholique philippine qui a dénoncé plus d'une fois une dérive autoritaire de Duterte. Certains évêques d'ailleurs avaient été accusés de conspiration contre le président. Aujourd'hui, des ONG comme Human Rights Watch demande au président actuel Ferdinand Marcos de remettre rapidement Duterte à la CPI. Ce serait, rappelle-t-elle, une étape cruciale dans l'obligation de rendre des comptes aux Philippines.
Merci Olivier Bonnel. Rodrigo Duterte sera emmené ce soir à La Haye, aux Pays-Bas, siège de la CPI, annonce ce matin sa fille, également vice-présidente actuelle des Philippines. Durcissement de la politique migratoire en perspective au sein de l'Union européenne. La Commission va présenter cet après-midi ses propositions, dont celles concernant des plateformes de retour dans les pays d'origine. Les pays scandinaves et les Pays-Bas poussent ce projet. L'Espagne les rejette. Le divorce se consomme un peu plus en Serbie entre les étudiants et le régime. Hier soir, les étudiants ont encerclé la radio-télévision serbe, l'un des principaux organes de communication du président Vučić. Les explications à Belgrade de Laurent Rouy.
Depuis le début des protestations en novembre, la télévision nationale, la RTS, a été critiquée pour la partialité de sa couverture. Elle est ostensiblement en faveur du régime du président Aleksandar Vučić, même si une place non négligeable est dédiée aux manifestations étudiantes. Mais lundi, une journaliste de cette chaîne a employé le mot « horde » pour parler des étudiants qui ont réagi par un blocage de la chaîne hier soir. La police est rapidement entrée de force dans le bâtiment, causant un blessé dans ses propres rangs, sans entamer la détermination des manifestants. Depuis, le président Vučić a accusé des « hordes bolchevico-plénumières », en référence au mouvement étudiant, d'avoir attaqué le policier. Ce matin, des employés de la télévision se sont joints aux manifestants. Ils demandent à leurs collègues de sortir du bâtiment. Le principal syndicat de la RTS a aussi exigé de sa direction la démission d'un rédacteur en chef pro-régime et l'impartialité des informations diffusées à l'antenne. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Nouvelle édition à 18h, heure de Rome. Excellente journée.